bienvenue chez Madame Manifestation, cette grande dame qui a à cœur de t'aider à faire rentrer plus d'argent dans ta vie et à le garder. Moi, c'est Laura, ton hôte sur ce podcast. Entrepreneur spécialisée dans la relation avec l'argent et la manifestation, je t'invite à poser tes valises chez moi et à y faire comme chez toi. Ici, on va discuter d'histoires inspirantes, de mes meilleurs conseils pour travailler ta relation avec l'argent, manifester ou plutôt manifester l'abondance que tu mérites. En bref, tout ce qui m'a permis de poser ma démission et de vivre pleinement de mon activité de cœur. Si toi aussi, tu as envie d'un business totalement aligné et la money qui va avec, reste avec moi parce que tu es au bon endroit. Alors, prête à démarrer le voyage ? C'est parti ! Bonjour à toutes et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Et aujourd'hui, je ne suis pas seule, je suis absolument ravie de pouvoir vous proposer ce rendez-vous qu'on a eu avec Meryl il y a de ça quelques semaines. Alors Meryl, c'est qui ? C'est une entrepreneuse avec qui j'échange depuis quelques mois maintenant et qui a été ma cliente et l'une des premières clientes à me faire confiance sur le programme Archétype Manifestation. On a beaucoup parlé, on se rejoint sur beaucoup de sujets, c'est toujours un plaisir d'échanger avec elle et en fait ce qui a été juste génial c'est de voir à quel point ses archétypes financiers en fait sont déjà sublimés dans son business. Donc Meryl est coach mindset, elle accompagne les CEO vraiment à incarner, à affirmer leur leadership, mais elle a également fondé Elisabeth Atelier Design qui est une entreprise de joaillerie. Vous pouvez retrouver de merveilleux et magnifiques bijoux. Voilà, Meryl, serial entrepreneuse avec qui j'ai eu le bonheur d'échanger du coup sur le parcours entrepreneurial, sur le mindset, sur ses retours suite à la découverte de ses archétypes. Ça a été un moment très très intéressant où on a chacune donné notre petite pépite, donc je vous invite vraiment à passer ce temps avec nous, je suis absolument ravie de pouvoir vous le proposer. Encore merci du coup à Meryl pour ce rendez-vous. Très bonne écoute à toutes. Hello Meryl, comment vas-tu ?
Bah ça va et toi Laura ?
Eh bien écoute, ça va super bien, j'adore le fait qu'on se demande comment ça va alors que ça fait 20 minutes qu'on discute.
Grave, c'est vrai. C'est vrai, c'est histoire de débuter le podcast comme il se doit.
Exactement, c'est ça. Eh bien écoute, avant de commencer, du coup déjà un grand grand merci de venir sur le podcast de Madame Manifestation. Je suis absolument ravie, on a beaucoup de choses à se dire. Et du coup, je te propose de te présenter pour que voilà, on puisse savoir qui tu es, ce que tu fais.
Ok, alors moi c'est Meryl Loess, il y en a qui disent Lowe's, c'est Loess. Meryl Loess, donc 33 ans, entrepreneur. Du coup, mon activité principale, c'est le coaching en développement personnel. J'accompagne les femmes, en fait, entrepreneurs à se débarrasser de leur syndrome de l'imposteur et d'affirmer leur position de CEO. Parce que je sais que ce n'est pas forcément quelque chose d'évident, c'est quelque chose que moi-même j'ai traversé. Et donc, du coup, j'accompagne les femmes à reprendre confiance en elles, à s'affirmer et surtout à ne pas avoir honte de leur ambition et de leur prise d'initiative. J'ai une marque aussi de bijoux qui s'appelle Elisabeth Atelier Design. Ça, c'est vraiment les deux sont des projets passion et sont complémentaires aussi parce que les bijoux, c'est quelque chose qui me donne confiance en moi. Enfin, je sais pas, c'est mon apparat, j'adore ça. Et c'est quelque chose qui m'a été transmis du coup par mes origines, mes parents, etc. Donc pour moi c'était un projet aussi tout aussi important. Et j'ai une émission sur YouTube qui s'appelle The Meryl Loess Show qui a interviewé des personnes web influentes et des femmes entrepreneurs en particulier. Et le but c'était de montrer à travers ces interviews que il n'y a pas un parcours de réussite, mais qu'il y en a plusieurs et que chacun à sa façon de trouver sa voie et sa mission de vie. Et le but, c'était de le refléter en image et que ce soit un partage et que ça puisse inspirer la génération actuelle comme la future génération qui arrive, surtout les jeunes filles et les jeunes femmes.
On adore. Alors vraiment, je suis tellement impressionnée par ton parcours et admirative de tout ce que tu as entrepris. Et donc, du coup, on va le voir aussi de par tes archétypes que ça fait totalement sens. Ouais. Je sais pas si je t'en avais parlé, mais je me suis rendu compte la dernière fois que, en fait, il y a, je crois, 4-5 ans, J'ai regardé des vidéos de toi et de tes
C'est
interviews.
vrai?
Je
Mais
te
non!
jure, je te jure. Et en fait, j'ai vraiment,
Incroyable!
non mais j'ai vraiment un problème. Je ne suis pas physionomiste, mais vraiment, tu vois,
C'est
je
vrai?
me bats avec ça depuis des années. Et je me dis, en fait, je me disais que tu me disais quelque chose vraiment quand on s'est rencontrés du coup cette année en vrai, enfin entre guillemets via Internet.
Ouais.
Et en préparant le podcast, du coup, je suis allée sur ta chaîne YouTube. Et je me suis et en fait tu sais
Rappelé.
le témoin de comme quoi t'as déjà regardé la vidéo, et ben j'avais
Ah,
regardé deux trois vidéos à toi, de deux trois
c'est
interviews.
fou ça. C'est incroyable.
Non
Mais
mais
je me suis coupé les cheveux entre-temps aussi, donc peut-être que ça peut porter à confusion. Parce qu'avant, j'avais
voilà.
une et tout, et là, maintenant, j'ai tout coupé. Donc, je peux comprendre que, bon, voilà, t'es pu ne pas me reconnaître. Ça arrive. Il y a des personnes dans la rue, parfois, qui hésitent, qui disent, mais attends, c'est Meryl ou c'est pas Meryl? Parce qu'ils sont restés sur le chignon encore, alors que j'ai coupé
Ah
mes cheveux. Tu vois, donc ça peut arriver. Mais c'est
oui,
fou!
non mais en fait j'ai vraiment alors pour tout te dire, je suis en train de voir pour me faire diagnostiquer en tant que TDAH, et les pertes de mémoire en tant que TDAH c'est très courant, et je suis presque soulagée de me dire si je suis diagnostiquée TDAH, parce que j'ai beaucoup de pertes de mémoire. Je suis très tête en l'air, tu vois, depuis toujours on me dit Laura t'es tête en l'air, et ça expliquerait tout, et ça explique aussi le fait d'être très peu physionomiste. Mais je te jure, quand j'ai vu, je me suis dit mais non mais c'est fou, enfin tu vois, comme
Eh
quoi
bien,
les chemins devaient se croiser, quoi.
croiser, exactement. Parfois, ça prend le temps que ça doit prendre, mais quand ça arrive, c'est. Enfin, pour moi, je parle du principe que tout est inscrit. Il n'y a pas de hasard.
Ouais.
Franchement, il y a trop de choses. Bah, de toute façon, on en parlera pendant le podcast, mais moi, il m'est arrivé des trucs où je me suis dit, mais c'est pas possible. C'est pas le hasard. C'est vraiment. Il y a des choses qu'on attire, on se rend même pas compte.
Ouais, bah j'ai hâte du coup d'en savoir plus. En fait, je suis très curieuse de savoir ce qui t'a poussé déjà dans le domaine, dans le, enfin, en fait, si tu veux, je vais réorganiser ma question. Je disais, en fait, dans tes accompagnements, tes archétypes qu'on va découvrir juste après transparaissent. Qu'est-ce qui, toi, t'a poussé, en fait, à, du coup, vouloir donner confiance en les femmes, et à assumer qui elles sont, et ouais, à être qui elles veulent être, tout simplement?
Ah, c'est une belle question. Franchement, bah, je pars du principe que c'est les métiers qui accompagnent les personnes, que ce soit dans le médical, que ce soit dans la thérapie, que ce soit dans le coaching. Il y a toujours une histoire sous-jacente par rapport à la personne qui accompagne, le professionnel. Et en fait, c'est quelque chose que moi, j'ai vécu et où j'ai pu m'en sortir et où j'ai vu en fait le avant-après. Est-ce que comment ça peut impacter la vie de quelqu'un quand elle prend la décision de ne plus subir les choses qui ne la font plus avancer, mais qu'elle décide de se transformer. Et en fait, il faut savoir que moi, étant enfant, déjà dyslexique, trouble de la concentration, j'étais pas bonne à l'école, moi, étant enfant. Par contre, j'ai toujours une intelligence émotionnelle très développée.
OK.
Et du coup, en fait, ben, tu sais, à l'école, ce qui compte, c'est les bonnes notes. Est-ce qu'elle a bien écrit son orthographe? Est-ce que, enfin voilà, c'est comment dire, c'est le
Le
curriculum
classe.
de l'école. Enfin voilà, c'est ce qui est demandé. Est-ce qu'elle apprend bien par cœur, etc. Et moi, j'avais plus ce côté-là de connecter en fait avec les élèves de ma classe, sachant que je suis funique de ma mère. Donc vraiment, quand j'allais à l'école, en fait, c'était pour connecter avec les élèves. J'arrivais toujours à ressentir un élève qui était pas bien, etc. Et à chaque fois, on convoquait mes parents pour dire, non, mais Meryl, va falloir qu'elle se concentre sur elle, au lieu de toujours s'occuper des autres, etc. Donc ça m'était tout le temps reproché. Et mes parents ont commencé à devenir inquiets parce qu'ils se disaient, mais enfin, on comprend pas, on t'envoie à l'école pour que tu puisses apprendre, etc. Et toi, tu vas à l'école pour t'occuper des autres. Mais c'était plus fort que moi, tu vois.
Ouais.
Vraiment quelque chose de naturel, c'est pas quelque chose de surjoué. Enfin, en plus, quand on est enfant, on est vraiment authentique. On cherche pas à jouer un jeu, tu vois. C'est vraiment ce qui transpire dans notre essence. Et puis ensuite, j'ai continué l'école et moi, on va dire que j'ai commencé à briller dans mes études quand j'ai commencé à faire mes études supérieures, quand j'ai eu mon bac. Faut savoir
Ok.
que moi, j'ai eu un bac pro. Et en fait, personne s'attendait à ce que je sorte avec un master, tu vois, et une année de
Ouais.
spécialisation. Personne. Franchement, que ce soit certains membres de ma famille, enfin moi, on m'avait déjà cloué au pilori en disant que ouais, elle serait vendeuse ou quoi. Enfin, tu vois, les gens, c'était toujours ah oui, mais Meryl, ce qui l'intéresse, c'est se faire belle, c'est les belles choses. Tu vois, j'étais hyper catégorisée.
Ouais.
Et ce qui faisait que, ben du coup, à force qu'on me compare et qu'on me pointe du doigt, que quelque part limite parce que t'as pas des bonnes notes à l'école, t'as pas le droit d'exister. Mais en fait, ça m'a conforté dans quelque chose où il fallait que je me fasse le moins visible possible. Sauf que avec ma personnalité et comme je suis, en fait, même si j'ai envie de me cacher, on me voit quand même et les gens viennent quand même. Et j'étais toujours dans cette dualité. Et je me suis rendu compte que, en fait, au lieu d'essayer de me cacher, il fallait que je puisse transcender, en fait, cette peur du jugement. Et en plus, c'était pas mon jugement, c'était le jugement des autres, la limite des autres, le regard qu'ils se portent à eux-mêmes, qu'ils projettent sur l'autre. Et quand j'ai compris ça, je me suis dit, mais en fait, il faut que je me débarrasse de ça parce que je vais pas pouvoir vivre, je vais pas pouvoir être comme j'ai envie d'être. Je vais pas pouvoir attirer ce que j'ai envie d'attirer. Je vais pas pouvoir, comment dire, limite même acheter ce que j'ai envie d'acheter parce qu'on va me juger. Ah oui, toi, t'aimes que les trucs chers. Non, c'est pas que j'aime les trucs chers. Ça n'a rien à voir. C'est que dans mon éducation, c'est vrai que la notion d'héritage est hyper importante.
OK.
Pour faire un petit parallèle, ma mère, a été gouvernante pendant plus de 30 ans pour des familles très riches. Et en fait, même dans mes origines, parce que je suis d'origine ivoirienne, en fait, la notion d'héritage est très importante. Et quand tu vas acheter quelque chose, le but, c'est pas de le garder que pour toi, mais c'est que ça traverse des générations. Et donc, forcément, quand tu veux quelque chose qui a une valeur ou qui a une qualité, bah, parfois, tu vas mettre le prix.
Ouais, pour
Et en
faire
fait,
dur.
si t'as pas, en fait, grandi, avec, cette logique-là, et que toi en face tu dis ouais bah moi j'achète les trucs juste pour acheter des trucs parce que j'en ai besoin, bah forcément ça va peut-être te renvoyer quelque chose de négatif, tu vois. Et c'est ce qu'on me renvoyait à chaque fois. Le privilège de porter des belles choses, le privilège d'aimer les belles choses, le privilège de, je sais pas moi, vouloir m'habiller comme je m'habille. Enfin, on me renvoyait toujours des trucs négatifs par rapport au fait que je m'occupe des autres et que je m'occupe de moi. Et je me suis dit à un moment donné, va falloir que je cesse ça, va falloir que je coupe ça, sinon je pourrais pas vivre la vie que j'ai envie de mener et je vais toujours me contenter de ce qui ne me contente pas finalement. Et c'est comme ça que petit à petit, ben, je me suis dit, ben, ok, je travaille dans le marketing, c'est bien, ça m'épanouit pas plus que ça. Moi, j'ai envie d'apporter mon expérience, mon expertise. À des femmes qui ont vraiment envie de se transformer, qui comprennent qu'en fait elles ont des atouts, des compétences, mais que peut-être elles en ont peur, parce que la peur de réussir, c'est réel aussi,
Et
et
oui.
c'est quelque chose que j'ai traversé. Et donc du coup, je me suis dit non, en fait, c'est ma manière aussi de laisser mon empreinte et de contribuer, parce que comme je te disais, la notion d'héritage pour moi c'est hyper important. Et je me suis toujours visualisée en me disant, demain, si je deviens maman, que j'ai des enfants, plus particulièrement des filles, en fait, qu'est-ce qu'elles vont retenir de moi? Au-delà d'un héritage financier, au-delà d'un héritage immobilier, au-delà de, tu vois, qu'est-ce que tu vas laisser comme marque, comme empreinte? Qu'est-ce que tu vas laisser? En plus, on a la chance aujourd'hui de pouvoir laisser des images, de pouvoir laisser des audios. Qu'est-ce que je vais laisser moi comme empreinte? Ça a toujours été ma question. Et c'est là où justement je me suis dit, bah non, en fait, il va falloir que je me tourne vers le développement personnel et que j'écrive mon histoire encore plus en tant que femme noire, parce que je sais qu'en tant que femme noire, déjà en tant que femme, on peut avoir des blocages, mais en tant que femme racisée, c'est encore un autre niveau, tu vois.
Ouais.
Et c'est ma part, c'est ma manière d'apporter ma pierre à l'édifice, et je me dis que bah, plus tard, quand je serai vieille, en tout cas, j'aurai pas à rougir parce que j'aurai suivi mon chemin.
Ouais. Waouh, trop. Je suis scotchée par l'histoire et du coup, ça me renvoie à une question où tout à l'heure, tu as dit en fait J'ai eu la peur de réussir. Est-ce que tu peux nous en parler? Parce que je pense que beaucoup plus de personnes qu'on le pense ont la peur de réussir. Et bien souvent, on a beaucoup plus la peur de réussir que la peur de l'échec. Et ça, quand on parle de la relation avec l'argent et de, bah voilà, quand on s'imagine, OK, je vais communiquer, avoir plus de clients, je vais avoir plus d'argent, etc. Ça fait beaucoup plus peur de rester, entre guillemets, au stade où on est et auquel on veut changer. Donc du coup, ça m'intéresse d'avoir ta vision par rapport à ça.
Alors moi, la vision que j'avais de la peur de réussir, donc il y avait ce côté de la peur d'être visible.
Ouais.
En plus avec la culture africaine, etc. En fait, on a ce mauvais réflexe de romancer la souffrance. Plus
OK.
tu souffres, plus t'es méritant. Et donc du coup, ben inconsciemment, et c'est même prouvé scientifiquement, hein, tout ce qui est épigénétique, en fait, déjà en étant in utero dans le ventre de la mère, il y a des choses qu'on prend dont l'enfant n'a pas conscience. Et donc du coup, ce côté-là de oui, tu vois, c'est parce que quelqu'un souffre, donc il est méritant. Et donc du coup, tu t'associes la réussite à la souffrance. Il faut que tu passes par des moments difficiles pour pouvoir avoir ce, comment dire, cette autorisation de l'autre à pouvoir briller parce que tu as souffert.
Ouais.
Et en fait, ça. Beaucoup de gens ne s'en rendent pas compte, mais dans le parcours, en fait, ça peut tuer ton entreprise. Ça peut tuer ton entreprise, ça peut tuer tes aspirations, ça peut tuer aussi ta vision, parce que du coup, en fait, inconsciemment, tu vas te mettre des bâtons dans les roues. Et
Ouais.
donc, du coup, tu vas avoir cette peur de justement d'être au devant de la scène. Mais t'es pas au devant de la scène parce que tu as envie d'écraser les autres. T'es au devant de la scène parce que tu as envie de partager quelque chose et que tu sais que si quelqu'un vient vers toi, tu pourras la votre travail en commun pourra tirer cette personne vers le haut, tu vois. Mais le
Ouais.
problème que j'avais, c'est que moi, avec cette peur de la réussite, c'est que j'étais toujours dans cet état d'esprit de il faut que j'arrive à convaincre de mes intentions pour pouvoir avoir cette légitimité de me présenter au monde. Mais en fait, je suis pas responsable de ce que tu comprends.
Et ouais. Et là, en fait, là, tu viens de mettre un point sur quelque chose que je vois avec 90% des personnes qui viennent justement dans le programme des archétypes financiers. C'est quand on est une femme et qu'on a envie d'apporter aux autres, en fait, notre expertise, notre expérience, etc. Surtout dans le domaine que ce soit développement personnel, bien-être, etc. On a ce côté où on a l'impression de, en fait, devoir montrer que l'on mérite énormément les revenus qu'on va générer parce que se faire de l'argent sur le mot MAUX, enfin sur les mots des gens, c'est pas bien et on devrait tout avoir la main tendue et donner gratuitement, donner à plus en pouvoir, être drainé juste d'avoir donné. C'est un peu l'image qu'on nous donne depuis toujours qu'on doit être là juste pour donner et
C'est
c'est
vrai.
super dur.
Très dur.
Ouais.
Parce que il faut réussir à transformer ton esprit. En fait, tes relations que tu vis, tes relations familiales, amoureuses, etc., en fait, c'est pas comme ça que tu dois traiter ton entreprise. Ton entreprise, c'est quand même un business. Même si tu apportes une contribution, une aide à quelqu'un, en fait, la personne, elle vient chercher ton expertise. Elle vient pas juste te demander un petit conseil. Et en fait, ton expertise, ça s'oriente sur des années, en fait, de répétition, d'expérience, le fait d'avoir pu acquérir certaines leçons parce que voilà, t'es passé à l'action et t'as pu reconnaître ce qui marche, ce qui ne marche pas, ce qui fonctionne majoritairement pour certaines personnes et ce qui ne fonctionne pas aussi. En fait, il faut que les gens ils comprennent que tout ça ne s'acquiert pas juste en ouvrant un bouquin. Un bouquin, c'est juste l'information. C'est comme quand je dis tu vas lire un livre de maternité, mais si t'as pas embrassé en fait le chemin de la maternité, tu peux pas comprendre. Tu peux pas avoir cette transformation psychologique de te dire en fait c'est ça être parent ou c'est ça être mère ou c'est ça être père, tu vois. Et je pense que déjà en France on a, j'irai pas un train de retard parce que chacun avance à son rythme, mais c'est vrai que par rapport aux pays anglo-saxons, on n'est pas encore sur la même fréquence. Ils sont beaucoup plus en avance que dans les pays francophones. Et en fait, il faut qu'on comprenne dans les pays francophones, parce que ça, je le remarque aussi Parfois, dans les entreprises, dès qu'on a eu nos diplômes, ça y est, on arrête les formations. En fait, non. On continue à apprendre. Et le développement personnel, c'est ça. C'est la continuité à apprendre sur soi, à apprendre sur son entourage, à apprendre sur les autres. Parce qu'on plus on passe des paliers dans notre vie, plus parfois on va être ramené à certaines insécurités. On est toujours amené à les travailler, en fait. C'est un travail qui demande une concentration et une volonté perpétuelle de vouloir évoluer. Moi,
Ouais.
je trouve que en fait, c'est le développement personnel ou le mindset, c'est comme le sport. Tu vas pas aller demander à quelqu'un, je sais pas, un bodybuilder, ouais, c'est quoi son livre? Quel a été le livre qui lui a permis d'avoir tous ces muscles-là que même moi je ne connais pas? Bah, en
Ouais.
fait, il va à la salle de sport tous les jours. Tous les jours, il a la salle de sport. Tous les jours, il a un régime alimentaire bien spécifique et il pratique, en fait.
Ouais.
Et il saura te dire ce qui marche et ce qui ne marche pas, mais parce que c'est des années d'expérience, c'est des années de pratique, et en fait, c'est ça qu'on doit se dire en tête. C'est pas une simple aide. La personne, quand tu la prends en coaching avec toi, c'est une transformation. Tu lui proposes un résultat, tu lui proposes l'atteinte d'objectifs. C'est pas juste un petit conseil de oui, comment tu vas mettre un vernis, ça tout le monde peut trouver, mais ce qu'il y a dans ton psyché. Et ce que tu as pu acquérir comme expérience, il n'y a que toi qui peux le donner de manière unique.
Ouais, totalement. Et c'est aussi pour ça que t'as certaines personnes qui viennent vers toi parce qu'ils savent que, bah, ok, je sais que tu vas pouvoir m'aider pour ce sujet-là, etc.
Exactement.
Et du coup, tout à l'heure, t'as parlé du fait d'accepter de se rendre visible.
Oui.
Et donc, ça me fait une super transition parce que du coup, accepter de se rendre visible grâce à nos archétypes financiers. Quand on vient regarder nos archétypes financiers, bah, en fait, tout la principale partie du sujet, c'est comment est-ce que notre archétype financier fait qu'on est plus visible aux yeux des personnes à qui on a des choses à offrir, tout simplement, et comment on travaille, du coup, nos réticences. Et du coup, comment est-ce que toi, tu as découvert le sujet des archétypes et est-ce que tu peux nous dire quels sont tes archétypes?
Alors moi, j'ai découvert mes archétypes durant le Covid. Durant le
Ok.
Covid, je suis tombée sur une Américaine qui faisait des vidéos par rapport à ça et ça m'a interpellée. J'arrive pas à retenir son prénom, mais elle est blonde. À l'époque, elle avait un carré, mais maintenant elle a les cheveux mi-longs. Enfin bref.
C'est une Américaine ou une Australienne?
Ah, peut-être qu'elle est. En tout cas, elle est anglophone.
Ouais, c'est peut-être Denise de Phil Thomas.
Oui, c'est ça.
Ouais, ok. Ouais.
Et donc du coup, je suis tombée sur ces vidéos et je me suis dit tiens, c'est la première fois que j'entends parler de ce sujet. Ça m'a rendue curieuse. Donc c'est comme ça que j'ai commencé à connaître le sujet des archétypes financiers. Mais ça se fait énormément aux États-Unis, mais en France, ça se fait pas beaucoup. Enfin très peu. Enfin moi je sais que. Enfin moi je crois que t'es la seule, hein, à ma connaissance, qui pratique ce sujet-là en coaching.
Ouais.
Et donc du coup, je me suis dit ah ben moi qui suis entrepreneur, ce serait bien que je connaisse mes personnalités financières parce que ça pourrait peut-être m'aider justement à mieux comprendre mon fonctionnement, etc. Et donc du coup, bah moi j'ai comme archétype j'ai le connecteur, le célébrité et le dirigeant.
Yes.
Et le enfin mon connecteur et mon nourricier ils sont en kiff-kiff quand même.
Ils sont en ex aequo?
Pas ex aequo, mais ça se rapproche, tu vois.
Ok.
Et donc, du coup, ça m'a permis, en fait, de comprendre aussi mon mécanisme. Mais c'est vrai que de la manière dont je vais me vendre, c'est plus mon côté célébrité qui va ressortir.
Ouais.
Mais dans mes coachings, ce qui va ressortir, c'est le côté connecteur et nourricier, direct.
Ah ouais.
Parce que j'ai besoin d'approfondir. La relation que je vais avoir avec ma coachée, j'ai besoin d'échanger parce que moi je fonctionne beaucoup aux mots. En fait, comment dire, quand quelqu'un parle, je visualise beaucoup ce qu'il me dit et j'arrive à retenir certains mots et lui faire répéter. Mais pourquoi tu dis ça? Et aller à la genèse de son histoire et comprendre, tu vois, là où la personne va en venir. Parce que parfois on va parler, mais on n'arrive pas trop à savoir quelle direction on est en train de prendre. Et justement, le fait d'avoir plusieurs répétitions de mots ou quelque chose, enfin, qu'on répète, mais de manière différente, En fait, c'est sur ça que je vais travailler justement pour arriver au résultat et cette atteinte d'objectif. Mais c'est vrai que ma manière de me vendre, c'est plus le côté célébrité. Même quand on me voit, c'est plus le côté célébrité. Et quand on apprend à me connaître, c'est beaucoup plus le côté nourricier et connecteur.
Ouais. Et d'ailleurs, c'est pour ça que tout à l'heure je disais, bah en fait, dans ton activité, dans même toutes tes activités, ça transparaît énormément. C'est, tu vois, le côté que tu disais dans ton enfance, où en fait, malgré toi, on venait te voir, t'étais, voilà, assez magnétique. En fait, comment la célébrité, elle est hyper charismatique, même sans le vouloir, tu vois. Et en fait, bah après, ça se transparaît dans sa façon de communiquer. Dans son image, dans son personal branding, etc. Et je trouve, bon, je te l'ai toujours dit, mais tu l'incarnes tellement bien, je trouve.
Merci, c'est gentil.
Non, non, c'est vrai. C'est que c'est pour ça aussi que je voulais te faire venir sur le podcast parce que il y a beaucoup de célébrités justement qui arrivent dans mon programme et qui ont entendu toute leur vie. Oui, mais t'aimes trop les belles choses. Oui, mais où on leur dit parfois, oui, mais t'es superficielle, oui,
Ah
mais t'aimes trop qu'on te voit, enfin, toutes ces choses qu'on pointe du doigt qui font que, bah, c'est pas à 100% toi, mais c'est une partie de toi, en fait. Et en fait, les célébrités, on passe leur vie à leur pointer du doigt ce côté magnétique, esthétique qu'elles ont, enfin, toutes ces choses-là, et en fait, quand elles découvrent qu'elles sont célébrités, c'est la révolution, c'est bah, en fait, j'ai envie de m'accorder d'être cette personne-là, de la même
oui.
façon que toi, tu as eu cette, comment dire, cette réalisation à un moment donné où tu t'es dit, j'ai plus envie de me cacher parce que ce n'est pas moi et j'ai pas envie de vivre ouais, malheureuse sans, en étant pas moi juste pour plaire aux gens en fait, autour.
Exactement, mais c'est ça. Et puis, comme tu disais, le côté, le mot, mince, m'échappe, superficiel. Je pense qu'il y a
Oui.
rien de pire que de cataloguer quelqu'un de superficiel parce que la personne, elle aime prendre soin d'elle ou parce qu'elle aime les belles choses. C'est deux choses bien distinctes, ça n'a rien à voir. Et comme je te disais, moi, ma couverture, c'est le côté célébrité où je vais aimer les belles choses, etc., où je vais vouloir m'apprêter, parce que c'est moi, je suis comme ça. Mais quand on apprend à me connaître, ben, c'est beaucoup plus le côté nourricier et connecteur. Mais comme je te le disais juste avant qu'on commence à tourner le podcast, en fait, j'ai compris que ben, en fait, la personne, si elle a envie d'avoir cette image-là de moi, ben, qu'elle l'est. En
Ouais.
fait, si je te renvoie une insécurité, c'est que toi, tu as quelque chose à travailler sur toi, c'est pas moi, hein, le problème.
Totalement.
C'est pas parce que j'ai envie de me faire belle ou que je suis bien habillée ou que voilà, j'ai mis mes bijoux que toi, ça te pose un problème. Donc, c'est moi qui essaye de te déstabiliser, ça n'a rien à voir, c'est juste ma nature, je suis comme je suis. Et si ça fait résonner quelque chose chez toi, c'est à toi de te poser la question, tu vois. Et c'est pas. C'est pas régler la chose de dire ouais à la personne qu'elle est superficielle parce que toi ça te renvoie quelque chose en fait que tu n'as pas ou que tu n'es pas et ça se trouve que tu as autre chose et que c'est pas dans ta nature. Ou alors si tu as envie de prendre soin de toi, bah, passe à l'action. Mais
Ouais.
me renvoie pas quelque chose que tu aimerais bien avoir finalement, tu vois. Parce que
Ouais,
ça,
mais.
j'ai remarqué ça aussi. Les gens critiquent et puis ensuite ils viennent te demander, ah, mais du coup, ça, tu l'as acheté où? Mais ça, j'aime bien. Ah, bah oui, mais commence déjà par là. Si tu veux, je t'accompagne, il n'y a aucun souci. Mais me critique pas d'abord, tu vois.
Totalement. Mais je suis super fan. En fait, enfin, on a besoin aussi des célébrités. Comme tu le disais, on a tous quelque chose d'unique, quel que soit notre archétype. Et je trouve que ce qu'on peut aller chercher chez les célébrités, c'est ce côté naturellement, bah, enfin, pour qui c'est naturel de bien s'habiller, de savoir où trouver les belles choses, les bonnes choses, toutes ces choses qui sont naturelles pour un célébrité. Et ben, on peut s'imprégner d'eux justement pour apprendre de ce côté naturel qu'ils ont pour ça, au lieu d'aller contre, en fait, et de constamment pointer du doigt ça, comme le fait qu'on peut constamment pointer du doigt d'autres différences des autres archétypes. Mais le célébrité, oui, peut challenger plein de personnes, parce que justement, c'est quelqu'un qui sort énormément de la foule et qui stand out, tu vois.
Oui, qui prend la lumière, on va dire. Mais
Ouais.
après, tu vois, C'est vrai que pour les femmes, et puis de manière générale, en plus avec tout le patriarcat qu'il y a autour, dès qu'une femme brille, ça veut dire qu'elle veut écraser. Pas du tout. C'est peut-être aussi, si cette femme-là, elle brille, c'est parce que peut-être qu'elle a envie de celle qui est devant ou derrière ou sur le côté, qu'elle a envie de les prendre aussi et de les amener à briller. Parce
Totalement.
que le but, c'est que tout le monde stand out, comme tu dis. Mais de manière unique et authentique. Chacun a son truc. Après, tu as des célébrités, je trouve, quand tu vois, par exemple, les personnes publiques, il y en a certaines qui sont hyper simples, mais juste leur aura. Bah, je te prends un exemple. Denzel Washington, bon, je connais pas ses archétypes financiers, c'est un mec, mais tu vois, c'est quelqu'un d'hyper simple. Par contre, son aura, et quand il
Ouais.
se met à parler, mais il est magnétique de fou.
Ouais,
Tu vois, mais c'est
totalement.
son truc unique, tu vois. Donc je pense qu'il y a différents types de. Je pense que dans le célébrité, il y a différents types. Et c'est ce qui est beau là-dedans, c'est que chacun a sa manière de se montrer authentique. Et tu vois, moi, c'est vrai que on va me voir par rapport à peut-être ma manière d'être habillée, ma manière d'être coiffée, etc. Mais ce qui m'a permis de créer une communauté solide, c'est surtout mon authenticité. C'est en fait les deux jumelés. Le côté connecteur et le côté célébrité, les deux ensemble, enfin, franchement, c'est le cocktail explosif.
J'adore. C'est trop bien. C'est trop bien parce que du coup, en fait, tu utilises à merveille tes archétypes financiers. Et voilà, c'est ça. C'est qu'il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ton côté célébrité. Il y a le côté connecteur qui se manifeste pour, voilà, justement avoir cette solidité dans ta communauté, même le nourricier dans tes accompagnements, etc. Pour toi, ça serait quoi les trois meilleures, enfin, la meilleure force de chacun de tes archétypes?
Le côté célébrité, je trouve que on va dire le point positif du côté célébrité, c'est l'affirmation de moi dans mon style, ma manière de me présenter et dans mon énergie, dans mon aura en fait. Ça, vraiment, je trouve que en fait, bah, c'est la première chose que tu vois. C'est pour ça que quand on dit l'habit ne fait pas le moine, je suis pas trop fan de ce dicton, parce que mine de rien, avant peut-être de connecter avec l'énergie de la personne, tu vas voir ce qu'elle te renvoie, tu vois.
Ouais.
Autant il y a des gens, moi en fait, c'est soit qui est tout double, soit les gens ils vont adorer, soit les gens ils vont dire ah, elle se la raconte. Et c'est OK. Tu peux dire que je me la raconte, je te connais pas, t'es libre de croire ce que tu veux, c'est pas mon problème. Tant que moi je suis bien dans mes baskets et que je sais que les proches que j'aime ou les personnes que j'apprécie me connaissent comme je suis. C'est OK. Tout le monde n'est pas obligé de me connaître dans mon intimité, tu vois. Et l'image que tu veux, ça me dérange pas. Donc ça, je trouve que c'est le côté positif du célébrité, mon côté, tu vois, magnétique. Mais tu peux être magnétique de différentes manières. Je sais que, par exemple, ça a été une révélation, après le Covid. C'est vrai que quand, par exemple, je vais faire des conférences ou des ateliers où je rencontre les gens, le côté connecteur et la manière dont je vais m'adresser à la population qui est en face de moi, ça crée un lien qui est hyper intense et hyper fort. À chaque fois, je ne sais pas pourquoi, les gens se mettent à pleurer, etc. Dans les voix,
Ça doit
tu
être du connecteur, ça.
vois. Ouais, tu vois. Donc ça, c'est le côté hyper positif parce que j'arrive à créer des liens qui sont sincères, même si ça se crée en peu de temps.
Ouais.
Parce que derrière, je ne cherche pas à raconter une histoire parfaite. Je veux raconter une histoire authentique. Et mon côté connecteur, il sublime en fait mon côté storyteller.
Ouais.
Et après, le côté dirigeant, ben c'est voilà, ça je comment l'expliquer? C'est parfois je peux avoir des moments d'hésitation sur la prise de décision, etc. parce que je suis quelqu'un de très intuitif. Et parfois j'attends de voir certaines choses se délier pour pouvoir prendre des décisions. Mais le côté dirigeant, c'est voilà, ma vision, qu'est-ce que je veux apporter au monde, quelle est l'empreinte que je veux laisser, c'est quoi mon but à long terme, à moyen terme, qu'est-ce que je veux faire, quel projet j'ai envie de mettre en place, quel est celui que j'ai envie d'arrêter. Et ça, c'est mon côté, voilà, dirigeant. Ou même si quelqu'un va me donner un conseil à côté, je vais écouter ce que tu vas me dire, mais je vais écouter aussi mon instinct et où j'ai envie de me diriger.
Ouais. Mais de toute façon, enfin, alors, du coup, tu en parles en tant que
Ah, par
dirigeant.
contre, j'en ai oublié un. J'en ai
De...
oublié un, pardon. Le côté nourricier.
Oui.
Et mon côté nourricier, c'est le côté maternel. Ça, c'est quelque chose que je peux pas retirer. Même si parfois, ça me coûte. En fait, je peux pas. C'est ma nature, je suis comme ça.
Ouais.
Et
Trop
dans mes
bien.
coachings, comment dire, très dans le suivi, très dans le, dans, comment dire, tu vois, dans mes accompagnements, on va avoir la séance, mais la personne, elle a mon contact direct. Si jamais il y a, j'ai donné un exercice qui est compliqué à gérer ou il y a des émotions qui ressortent, etc., je veux que la personne puisse se sentir libre de me dire, OK, là, je t'envoie un message parce que Meryl, là, il va falloir que je décaisse parce que c'est chaud. Et qu'elles se disent, ouais, en fait, Meryl, elle est là pour m'accompagner, pas que en séance, mais c'est surtout le processus. Et ça, c'est mon côté nourricier.
Ouais. En fait, à chaque fois, ce qui je trouve ça fou, c'est que tu donnes vraiment les mots-clés qui sont en lien avec chacun des archétypes. Le nourricier, c'est je te mène pas à pas, je te tiens par la main, je t'emmène. Comment dire, bah, du coup, t'en parles en dirigeant, je l'appelle rouleur. Rouleur,
Oui.
c'est qui voit le processus, où aller, quand aller, quoi faire. C'est vraiment l'intelligence entrepreneuriale, quoi. Et en fait, t'es en plein dans le mille de tes archétypes, quoi.
Mais c'est bien, c'est que je les ai bien analysés, je les ai bien incorporés
Ah ouais.
dans mon
Totalement.
processus.
Et du coup, tout à l'heure, tu me disais, oui, en fait, je sais qu'il n'y a pas de hasard, on en parlera après, etc.
Oui.
Tu pensais à quoi?
Il y a tellement de choses, que ce soit dans le domaine professionnel, comme dans les relations amoureuses, comme dans les amitiés. Par exemple, tu vois, il y a la première saison de l'émission, quand on l'a tournée, en fait, je cherchais absolument à avoir quelqu'un d'anglophone, un parrain connu, tu vois. Pour faire la dernière interview de l'émission. Et je cherchais, je cherchais, je cherchais, et je cherchais en France, mais je trouvais pas. En fait, c'est vrai que les personnes qui m'inspirent sont beaucoup plus anglophones.
OK.
Et je cherchais, je trouvais pas. Et puis je me suis dit, bon, peut-être que c'est un peu prématuré comme idée. Il faudra que peut-être que je fasse plusieurs saisons avant que ça arrive. Et donc du coup, eh ben c'est fou. Parce que là, t'es à Bali et en fait, c'était la première fois que j'allais à Bali.
OK.
Je pars à Bali. À l'époque, j'étais pas encore mariée avec monsieur. Donc, on part à Bali pour un voyage. Donc, on s'arrête d'abord à Singapour, etc. 3 jours, histoire de visiter. Et puis ensuite, je tombe malade la veille du départ pour Bali à Singapour. Mais malade, mais horrible. Je pense que j'ai dû faire une intoxication alimentaire.
Ouais.
Et mon mec me dit, mais c'est bizarre et tout, t'es pas bien, etc. Là, on va prendre l'avion, ça m'inquiète. Je dis, non, mais t'inquiète pas, ça va aller et tout. Et lui, maintenant qu'on arrive à Bali, je crois que Bali, enfin, je suis pas la première personne à raconter cette histoire, mais j'ai l'impression que cette terre, quand tu rentres dessus, faut qu'elle te purifie, tu vois.
Ah oui.
Quand
Ouh là
t'arrives,
oui. Oui.
t'es malade. C'était la première fois que je le voyais aussi malade. Je me suis dit, mais c'est pas possible. On vient à Bali déjà entre le décalage horaire, les heures de voyage. Je dis, mais on va pas perdre 3 jours, c'est pas possible. Mais il est malade, mais comme un chien. Nausées, maux de tête, enfin, c'est horrible. Et bah du coup, on perd 2 jours à l'hôtel parce qu'on est vraiment pas bien. Et il y a un moment, on se décide à sortir. On se dit, bon, on prend notre courage à deux mains. Quand même, on va faire une petite sortie le soir. On va se faire un petit resto. On va pas manger beaucoup parce qu'on a l'estomac complètement retourné. Mais on se dit, quand même, on va essayer un petit peu de visiter, etc. Enfin, de passer une soirée sympa. Et on sort du resto. On marche, on marche, on marche. Et je m'arrête et je me dis, mais c'est pas possible. C'est Russell Simons qui est dans le salon de massage de pied, là. Et en fait, Russell Simons, c'est lui qui a lancé Jay-Z, Nas, plein de rappeurs
Non.
hyper connus, tu vois. Et je me dis, c'est une blague. Et je me retourne, je demande à mon mari, je dis, c'est pas Russell Simons. Il me dit, si, si, c'est lui. Je dis, mais c'est pas possible, tu
Sans
vois.
pression. Oui, si, c'est
Ouais,
lui.
rien. Si, c'est lui, tu vois. Et donc, il sait qu'on le reconnaît. Et il sort. Et Marc, il me dit, il avait l'appareil photo tout, hein. Il me dit, je veux faire une interview avec lui. Je dis, non, mais franchement, il vient de sortir du salon de massage, j'ai pas envie de le déranger et tout. Il me dit, hey, c'est maintenant ou jamais. Ça se trouve, ça sera la dernière fois que tu vas le rencontrer. Et je prends mon courage à deux mains, je me dis, vas-y, ok, on y va, tu vois. Et donc, du coup, j'arrive à faire cette interview avec la personne anglophone que je voulais, tu vois, qui se manifeste à ce moment-là précis. Donc, c'est pour dire, ouais, parfois, il y a des choses auxquelles tu penses, tu es tellement aligné avec cette décision et tellement authentique avec cette prise de décision aussi que ça vient à toi, en fait. Il y a plein de choses que j'ai manifestées comme ça, que ce soit la rencontre avec mon mari, notre mariage, des amitiés aussi, des personnes que j'ai encore une fois interviewées que je ne connaissais pas du tout, où j'avais juste en tête où je me disais, bah, j'ai vraiment envie d'interviewer cette personne et tout, mais je ne sais pas où je vais la rencontrer. Mais bon, je laisse faire les choses et je sais pas, je suis invitée à un événement et là, il y a la personne qui est là et je vais lui parler. Ah, mais ouais, mais attends, mais j'aimerais trop. Mais attends, on se fait 5 ans, c'est quoi ton agenda? Et enfin, tu vois, ça laisse place à la magie en fait. Et la manifestation, il y en a plein qui n'y croient pas, mais quand on sait comment manifester, c'est révélateur de beaucoup de choses.
Ouais.
Et tout ce qui se passe dans notre inconscient aussi.
Je suis ébahie. Non, mais je suis fan de tes histoires, Meryl, c'est exceptionnel. Attends, mais parce que du coup, j'ai des questions par rapport à ton interview. Enfin, du coup, tu lui as proposé directement et vous avez fait l'interview à Bali même.
À Bali même, c'est-à-dire qu'il y avait un endroit, comme par hasard, où il y avait des lumières avec un banc, et on s'est dit, bon, on va le faire là. L'interview, elle est sur YouTube, hein.
Mais je vais aller voir, je
C'est
vais
une
aller.
interview, elle est courte, tu vois, mais c'était sur le moment, c'était pas du tout préparé. Enfin voilà, je lui ai demandé quelle était. Je me souviens même plus des questions que j'ai posées, mais c'était juste un truc de fou, quoi. Quand on est rentré, on s'est dit, mais c'est pas possible.
Qu'est-ce qui
Et
vient de
mon
se
mari
passer?
me dit, mais il n'y a qu'à toi que ça arrive, des trucs comme ça.
Non, mais c'est excellent.
Ouais.
Voilà les amis, un exemple de quelqu'un qui est tellement aligné, qui manifeste et qui est tellement dans ses archétypes qu'elle le fait ultra naturellement quoi. Je suis totalement fan.
Ouais, moi aussi, je suis contente de pouvoir, comment dire, écouter cet instinct parce que c'est pas forcément évident tous les jours. Même manifester, hein, c'est pas forcément évident tous les jours parce que parfois il y a des peurs qui vont nous rattraper en se disant, mais attends, mais c'est ce que je veux manifester, mais est-ce que je suis à la hauteur? Est-ce que je suis prête à recevoir? Est-ce que je... Et puis dans la manifestation aussi, il y a un temps, il y a un délai, il y a des trucs qui vont se manifester, des événements qui vont se manifester tout de suite et d'autres, comment dire, choses qu'on veut manifester qui mettent un peu plus de temps, mais parce que je pense aussi que l'univers fait bien les choses. Enfin, moi, je suis croyante et je me dis que Dieu fait bien les choses et qu'il sait au moment où on est prêt à recevoir ou pas. Par exemple, là, je parle du cadre des relations amoureuses. Mon mari, j'aurais pu le rencontrer une année avant, mais si on s'était mis ensemble cette année-là, je pense que la relation se serait gâchée parce que j'étais pas prête. Je sortais d'une
Okay.
relation qui m'avait beaucoup blessée, où j'étais comme un animal blessé, quoi.
Ouais.
Un animal blessé, quand t'as envie de lui apporter ton aide, il grogne parce qu'il sait pas, tu vois, jusqu'à temps qu'il s'apaise et qu'il comprenne que tu es là pour l'aider et que t'es pas là pour encore enfoncer le couteau dans la plaie. Et en fait, j'aurais pu le rencontrer une année avant, mais ça s'est pas fait. On s'est rencontrés l'année suivante et aujourd'hui, ben, on est mariés et ça se passe très bien, tu vois. Mais je pense que, ouais, surtout quand on est dans cette phase où on n'a pas envie de précipiter les choses. Bon, là, on sort du côté entrepreneurial, mais l'entrepreneuriat aussi, c'est la relation qu'on a à soi et son entreprise. Il y a des moments de haut, il y a des moments un peu de bas aussi, on va se remettre en question. Il y a des moments de transition aussi, comme dans les relations familiales, amoureuses, amicales. Et je pense que c'est important aussi de s'octroyer ce temps, parce qu'aujourd'hui, on est dans ce truc d'hyperproduction, il faut tout le temps être productif et du coup on s'écoute pas, on s'écoute plus. Et le but c'est de toujours se montrer visible, je fais des choses pour prouver. Mais en fait moi j'ai appris aussi que à certains moments ne pas être visible c'est pour moi le nouveau luxe en fait de pouvoir s'octroyer du temps.
Ouais.
Et dans les relations bah, c'est hyper important parce que si j'avais pas pris ce temps pour moi travailler sur moi, sur mes blessures, comprendre aussi pourquoi il y avait ce cycle qui se produisait à chaque fois, tous les 2 ans, des ruptures, etc. Comprendre mon mécanisme et que, ok, j'étais victime de comportements de la personne en face de moi, mais j'avais aussi mes responsabilités dans les comportements que les personnes pouvaient avoir aussi. Et quand tu comprends ça te transforme en fait. Mais il faut avoir cette volonté de se dire, ben ouais, j'accepte que j'ai peut-être un problème sur ça et qu'il va falloir que je le règle, tu vois.
Ouais.
Comme dans l'entrepreneuriat. Vraiment, ça, c'est un conseil pour moi qui vaut de l'or parce qu'il y a beaucoup de gens qui se lancent dans l'entrepreneuriat en pensant que, ouais, parce qu'ils ont l'idée et la vision, donc forcément, ça va aboutir. Mais en fait, l'entrepreneuriat aussi, c'est la chose qui peut ouvrir les plus grosses blessures qu'on a en soi. Et si on ne les travaille pas, ça nous perd.
Ouais. On est, enfin, et je pense que c'est aussi pour ça, par exemple, qu'il y ait beaucoup de monde qui s'intéresse aux archétypes financiers, c'est parce que, en fait, on se retrouve tellement confronté à notre relation avec l'argent dans tous les aspects
C'est
de
vrai,
notre
c'est vrai.
business, que, ben, en fait, au bout d'un moment, les personnes sont vraiment au pied du mur et disent, mais j'ai toute la théorie, je sais tout ce qu'il faut faire, pourtant j'ai fait ci, j'ai fait ça, mais ça marche pas. Oui, mais en fait, si, et c'est comme, tu vois, le même parallèle avec l'amour. Bah, si t'as eu que des relations amoureuses horribles et que t'as une relation à l'autre horrible, et bah, en fait, tu peux pas être sereine pour pouvoir te remettre dans une relation ou dater, etc. Il y a des choses à travailler en soi. Et ce que t'as dit tout à l'heure, j'ai adoré, où t'as dit, il faut prendre le temps, c'est un luxe, en fait. C'est accepter d'investir son
Ouais.
temps et son argent pour aller
Exactement.
travailler les choses qu'on repousse depuis des années, depuis un moment. Et c'est trop important. C'est trop
J'aurais
important.
pas dit mieux. Enfin, franchement, c'est cette chose-là parce que, comment dire, la relation à l'argent et comme on va dire les relations aussi amoureuses, enfin tout ce qui est lié au sentiment, en fait, quand on notre contexte familial, notre éducation nous apprend à aimer d'une certaine manière et parfois c'est pas forcément la bonne manière, tu vois. Et
Ouais.
donc en fait, il y a des choses à retravailler. En fait, on c'est pour ça que moi je dis que quand tu fais moi j'ai fait de la thérapie, je me suis fait coacher, j'ai fait de l'hypnose, enfin, franchement, j'ai testé plein de choses parce que j'étais beaucoup ouverte justement au développement de moi-même et ce que j'avais envie de transformer. Et ce que je peux dire entre la différence entre le coaching et le fait de voir un psy, le psy, tu vas beaucoup parler de ce qui t'a fait souffrir. En coaching, tu vas en parler, mais le but, c'est de transformer ces souffrances-là en armes massives, en fait, pour te transformer et justement t'expandre dans ce que tu sais faire le mieux, tu vois. Et je trouve
Ouais.
que ça, c'est pas assez dit. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui font l'amalgame, ah oui, mais coach, c'est pas thérapeute ou c'est pas psy, mais c'est pas la même chose. Le coach, il t'accompagne à atteindre des objectifs qui sont précis.
Totalement, totalement, je
Alors
suis oui.
que la thérapie, enfin, alors que le psy, oui, tu vas beaucoup parler, tu vas beaucoup échanger, mais ça n'a rien à voir, en fait. Le coaching, vraiment, ça te. Je dirais pas que ça te pousse dans tes retranchements, mais en fait, ça te pousse à dépasser cette vision que t'as de toi où tu te dis c'est pas possible. En fait, au final, quand tu termines, tu te dis, mais j'ai parcouru tout ça. Je pensais pas que j'en étais capable, tu vois.
Tellement, c'est tellement ça. J'adore. On arrive du coup à la question de la fin.
Oui.
Et du coup, alors je vais avoir 2 questions pour toi. La première, c'est, ça serait quoi pour toi le conseil que tu peux donner aux personnes qui découvrent leurs archétypes?
Alors, le conseil que je pourrais donner, c'est une bonne question.
Qu'est-ce qu'on en fait? Parce que je sais qu'il y a plein de personnes qui se retrouvent un peu submergées, qui savent pas quoi en faire, qui trouvent vite, tu vois, tous les défauts de leurs archétypes. Et il y a souvent ce truc où chaque personne qui découvre ses archétypes a l'impression que bah, leurs archétypes, c'est des tares, qui sont pas, qu'il y a plein de défauts et qu'il y a rien à prendre. Tu vois?
Moi personnellement, en tout cas sur les archétypes financiers, moi j'avais déjà conscience de certaines forces, mais je pense que du coup avoir fait justement le coaching, ça m'a permis mettre des mots précis sur les compétences que je pouvais avoir, comment je pouvais me vendre, etc. Je me suis pas énormément focalisée sur les points faibles. Au contraire, je me suis positionnée sur les points forts parce que c'est en fait mon intention quand je voulais suivre la formation, c'était ça, me dire OK, j'ai conscience de certaines choses, mais j'ai envie d'approfondir mes connaissances. Et du coup, je suis restée justement sur les points forts de mes archétypes. Et ensuite, ce qui est important, c'est de se dire, OK, là, j'ai découvert mes archétypes. Par exemple, moi, je vais me positionner sur le célébrité. Si tu sais que tu es célébrité et que tu refoules ce côté-là de toi, il faut vraiment venir travailler dessus. Parce que c'est ce qui peut te, en fait, c'est ce qui peut altérer ton authenticité. Et finalement, tu vas vouloir te conformer à quelque chose qui ne te ressemble pas. Et ça finit par être épuisant parce que tu refoules en fait ce que tu es et de se dire aussi que ben c'est pas parce que j'ai un côté célébrité que j'ai envie d'écraser les autres, c'est juste que j'accepte ma propre lumière et je sais que ma lumière peut guider quelqu'un aussi. Donc c'est le conseil que que je donnerais de vraiment se fixer sur les qualités de ces archétypes et de les travailler au plus. Comme tout à l'heure, quand tu m'as demandé mes archétypes, ben voilà, je suis vraiment restée sur les côtés qualitatifs de mes archétypes.
Exactement. Tu ne serais pas coach, Meryl, par hasard?
Merci.
J'adore. Non, mais j'ai envie que tu viennes coacher avec moi. C'est ouf.
Eh ben, écoute, si la proposition, moi j'accepte, hein. Enfin, franchement, moi, c'est le coaching pour moi, c'est une mission de vie. C'est pas. En fait, ça m'est tombé dessus. C'est pas quelque chose que j'ai choisi. Après, t'acceptes la mission ou pas, parce que le coaching, c'est pas forcément évident. C'est beaucoup d'énergie, c'est beaucoup de, comment dire? Ouais, c'est ça, c'est beaucoup d'énergie donnée. Les gens se rendent pas compte, mais pour pouvoir te recharger ensuite quand tu fais des séances, parce que après, tout dépend, hein. T'as des gens qui arrivent à prendre de la distance. Moi, je suis grave impliquée, tu vois. C'est comme si
Donne
t'étais moi
beaucoup.
qui étais en train de me transformer
C'est
aussi, tu
ça.
vois.
Bah, connecteur nourricier, hein. Moi,
Voilà,
pareil, hein.
tu
Je finis
vois.
mes sessions, je vais me coucher, hein, au moins pendant une demi-heure, parce
Ça.
que voilà, parce qu'on
Ah,
donne tout,
exactement.
quoi.
Exactement, je donne tout parce que j'ai envie que la personne, elle se sente valorisée parce que c'est vrai que moi, les prix que je pratique, c'est des prix luxe, voire, enfin, premium, voire
Premium,
luxe.
ouais.
En fait, moi, c'est important d'avoir cette éthique-là où je me dis, OK, la personne, elle investit. Et en fait, je dois être à la hauteur de ce qu'elle investit aussi, tu vois, en termes d'énergie. Et c'est ça aussi, quand tu vas prendre, par exemple, un coaching à 500 euros et tu vas prendre un coaching à 5000 euros, en fait, tu peux pas t'attendre à la même énergie. Tu peux pas
Exactement.
t'attendre à la même disponibilité, tu peux pas t'attendre aux mêmes, comment dire, aux mêmes prestations. C'est pas possible parce que l'investissement de la personne, en tout cas, si elle a une éthique de travail, et moi je sais que j'en ai une. En fait, tu vas prendre un coaching à 5000 euros avec moi. T'inquiète pas que je vais te faire aller dans les plus beaux endroits de Paris où on va faire des séances bien précises, où il y aura des moments de relaxation. Je vais t'emmener au spa Cheval Blanc parce que tu mérites. Enfin voilà, c'est tout ça. Il y a un investissement derrière psychologique et financier aussi parce que
Ouais.
les gens s'imaginent que parce que tu fais un coaching à 5000 euros, les 5000 euros, tu les prends pour toi. Non, derrière, tu payes des taxes. Quand la personne, tu la fais venir en présentiel, eh ben, tu payes les frais, ce qui est normal. Tu l'amènes, tu lui offres une carte cadeau au spa, c'est toi qui payes. Enfin, tu vois, tout ça, c'est déduit et c'est pas des spas à 60 balles, tu vois. C'est des
Ouais, carrément.
spas bien chers, mais qui sont à la hauteur de l'expérience que tu as envie de faire vivre à la personne et qu'elle se dit, ben, en fait, ouais, c'est ce que je mérite. Moi, je suis une célébrité. C'est ça que je veux dans ma vie et c'est ce que je veux manifester, tu vois.
Ou drop
Ouais.
the
Exactement.
it so much. Je suis fan. Merci Meryl, merci
Avec
beaucoup pour ce moment. Franchement, je suis juste ravie de cette discussion. Et du coup, ma dernière question pour toi, c'est où est-ce qu'on peut te retrouver?
Alors, on peut me retrouver sur Instagram, Meryl Loes, donc Meryl.Loes, Loes. On peut me retrouver sur YouTube aussi. Meryl OS, pareil. Et on peut me retrouver sur TikTok aussi au nom de Meryl OS. Et après, ensuite aussi, les personnes, elles ont des questions ou qu'elles ont envie de travailler avec moi, elles peuvent m'envoyer un message en privé. Ou alors directement, j'ai un lien dans ma barre d'infos où en fait la personne a accès à un questionnaire et ensuite si elle est sélectionnée, parce que c'est une candidature, je travaille pas avec tout le monde, je travaille vraiment avec les personnes qui ont la volonté de s'investir parce que parfois il y a des personnes, c'est dur ce que je vais dire, mais il y a des personnes qui sont là pour perdre le temps et le temps c'est précieux, mon temps il est précieux et j'ai envie de me concentrer sur des personnes qui voilà, ont vraiment la volonté de s'investir, la volonté de se transformer et qui prennent leurs responsabilités vraiment. Et déjà rien que d'aller jusqu'au bout du questionnaire déjà, parce qu'il y a pas mal de questions où voilà, je demande un petit peu de rentrer dans les détails pour avoir ensuite moi pouvoir préparer mon entretien avec la personne, savoir ce qu'elle désire faire, sur quoi elle souhaite travailler. Et si je peux l'accompagner aussi, parce que si c'est pas dans mon créneau, moi j'hésite pas aussi à rediriger. C'est ce qui me permet aussi d'être sélective avec les personnes avec lesquelles je travaille, parce que je pense que il faut que l'énergie matche. Si ça matche pas, c'est pas la peine.
C'est exactement ça. Ouais. Totalement. Eh ben écoute, merci beaucoup Meryl, merci à toi.
Ben merci à toi de m'avoir reçu sur le podcast, c'était trop cool, j'ai passé un super moment. J'espère en tout cas que notre échange permettra d'éclairer au plus ben, les personnes qui vont l'écouter. Et voilà, ça a été un plaisir.
Eh ben écoute, plaisir partagé. Merci à toi et puis je te dis à très très vite.
Bye.
Bye. Ça y est, c'est la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous a plu autant qu'il m'a plu à faire et à monter. Voilà, comme je vous le disais, il y avait des pépites et je suis très très heureuse de vous les avoir partagées. Encore un big 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 merci à Meryl pour le temps qu'elle m'a accordé pour ce rendez-vous. Je suis ultra reconnaissante. Je suis sûre que ça va accompagner et aider plein de monde en ce début d'année. Donc voilà, un grand merci à tous. Merci à vous d'être restés jusqu'au bout. Et puis je vous dis à très vite. Et surtout, en attendant, n'oubliez pas que vos ambitions n'attendent pas. Bye bye.